Lionel, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous partons pour une nouvelle émission qui, quand je dis nous partons, c'est à bon escient puisque le thème de cette émission est consacré au voyage intergalactique avec le titre plus précis.
Oui, est-il raisonnable même d'envisager un voyage spatial?
Voilà, on va y répondre dans quelques instants parce que, a priori, rien qu'en écoutant cette question, on a l'impression que c'est pas forcément possible.
Ben oui, et pas seulement au point de vue technologique, comme on le verra, mais même au point de vue physique, simplement, peut-être que ça ne servirait à rien de l'envisager.
On est si bien sur notre planète,
exactement.
Alors pourquoi aller voir ailleurs, n'est-ce pas?
Mmh.
On en reparle dans quelques instants, après une première pause musicale. Dans cette deuxième émission de la saison 2006-2007, nous abordons donc les voyages intergalactiques. Est-il raisonnable d'envisager un voyage spatial? Tel est le thème de cette émission. Et comme nous le disions il y a quelques instants, rien que dans cette question, il y a déjà un début de réponse.
Oui, alors déjà, il faut faire un état des lieux et voir au niveau de la technologie où on en est actuellement. Parce que déjà, on est déjà limité par la technologie. Et donc, les premières sondes qu'on a réellement envoyées dans l'espace, donc juste dans notre système solaire, mais quand même à destination d'étoiles plus lointaines, c'était Pionier 10 et Pionier 11, donc dans les années 70. Et celles-là voyagent actuellement à des vitesses de l'ordre de 40 000 km à l'heure. Donc, ce qui peut paraître.
C'est un vrai taco, des vrais tacos.
Alors, ça peut paraître énorme pour nous, on va dire 40 000 km heure. Mais c'est vrai que dans l'espace, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout parce que les distances à parcourir se comptent en centaines de millions de kilomètres, milliards de kilomètres. Les suivantes ont été Voyager 1, Voyager 2, dans les années 80. Celle-là, elle est un petit peu plus vite, 60 000 km heure. Mais c'est vraiment un tout petit peu plus vite. Et avec ça, on atteint Saturne en 4 à 5 années. Donc si on imagine, nous, un vaisseau à cette vitesse-là, il faut déjà passer plusieurs années pour arriver, ne serait-ce que dans le voisinage de Saturne.
Ouais, parenthèse, ces sondes n'ont pas encore quitté le système solaire.
Le système solaire, non. Ouais. Elles ont quitté l'orbite de Pluton, mais dans le système solaire, non. Parce que le système solaire, c'est deux années-lumière, donc à mi-chemin de la plus proche étoile. Donc non, pas encore.
Ça, c'est pour illustrer votre propos et dire qu'effectivement, elles vont très très lentement.
Donc, c'est assez lent. Alors, ce que l'on a de tout nouveau actuellement, ce sont des moteurs ioniques. Alors, ça a été testé sur notre petite sonde européenne SMART, qui s'est écrasée sur la Lune le mois dernier, et testé aussi sur la sonde Nouveaux Horizons, New Horizons en anglais, qui est partie en janvier 2006 en direction de Pluton, qu'elle atteindra vers 2015. Donc, il lui faudra à peu près une dizaine d'années pour atteindre Pluton. Donc, c'est une sonde équipée d'un petit moteur ionique. C'est la plus rapide actuelle, mais il lui faudra quand même une dizaine d'années pour atteindre Pluton. Et Pluton, ce n'est plus la neuvième planète du système solaire, puisqu'elle a été déclassée, mais donc c'était les confins de notre système solaire au niveau des grosses planètes. Mais à cette vitesse-là, on imagine la plus proche étoile, donc Alpha du Centaure, qui est à 4 années-lumière, est quand même 5000 fois plus éloignée que Pluton. Donc il lui faudrait 50 000 ans. Donc cette petite sonde-là mettrait 50 000 ans, ne serait-ce que pour atteindre notre plus proche voisine. Donc évidemment, avec de telles technologies, il est inconcevable, ne serait-ce que d'envisager un voyage. Parce que c'est vraiment sur des milliers de générations qu'il faudrait l'envisager. Donc c'est impossible. C'est vraiment dans le système solaire, mais très proche de la Terre. Jusqu'à Mars, ça marche encore. Ne serait-ce que pour Mars, il faut compter deux années.
On pourrait faire une analogie en imaginant par exemple que avec les moyens de locomotion du Moyen-Âge, c'est comme si les hommes avaient voulu aller sur la Lune, c'était impossible.
Voilà, exactement.
Voilà, on est à peu près dans le même esprit.
Tout à fait. Donc, les futures technologies, que vont-elles nous apporter? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la propulsion dépend de deux paramètres importants. Ça dépend de la vitesse de ce que l'on va éjecter à l'arrière des tuyères de la fusée et de la masse de ce qu'on éjecte. Alors soit on joue sur la vitesse d'éjection, soit sur la masse éjectée par seconde. Alors par exemple, une navette spatiale. Une navette spatiale, ça éjecte de la matière de l'ordre de 3 à 5 km par seconde. Ça c'est la puissance d'éjection. Mais la consommation, c'est 10 tonnes à la seconde. Donc en fait, là, le paramètre important, c'est la masse. On éjecte 10 tonnes de matière par seconde, ce qui est énorme. La vitesse d'éjection est relativement faible, 3 à 5 km par seconde seulement.
Ce qui veut dire, pour être très clair, qu'il faut des réservoirs de carburant. Ce ne sont pas des carburants, mais des réservoirs énormes pour faire
voilà.
Un tout petit trajet.
Exactement. La masse utile est négligeable par rapport à la masse totale de l'engin qui contient essentiellement le carburant pour pouvoir s'extraire de l'attraction terrestre. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de se débarrasser au fur et à mesure de toutes les masses inutiles. C'est pour ça qu'on fait des fusées à plusieurs étages. Dès qu'un étage est inutile parce qu'il est vide, on s'en débarrasse. On va pas s'amuser en plus à traîner de la masse inutilement, puisque ça nous pénaliserait dans la vitesse. Donc une navette spatiale, comme une fusée Ariane, comme toutes ces fusées-là, c'est la masse éjectée qui est importante. Donc une consommation énorme, en quelques minutes, la fusée n'avance plus. Donc après, c'est un tir balistique, on a juste donné de l'élan, et après c'est parti. Il faut pas se tromper justement dans l'élan, parce qu'après on pourra plus corriger le tir.
Voilà, mais c'est ce type de carburant, ce type de vaisseau, a son utilité parce que c'est pour s'échapper de l'attraction terrestre.
Exactement, il ne sert en gros qu'à ça.
Après, on peut passer à autre chose.
La puissance est énorme au départ, il faut atteindre une certaine vitesse, qu'on appelle la vitesse de libération, pour se libérer de l'attraction terrestre, et donc là on a besoin de beaucoup de puissance. Au-delà de ça, on a de toute façon plus de carburant, on a plus de réserve, et donc là, c'est en roue libre. Avec les moteurs ioniques, donc les tout nouveaux moteurs, là, on va jouer sur l'autre paramètre qui est la vitesse d'éjection. Donc là, c'est du plasma, des petites particules ionisées qu'on va éjecter très 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 vite. Donc les particules sont de très faible masse, mais on va les éjecter à 200 km par seconde. Voilà, à 200 km par seconde. Donc ce qui est énorme. Tout à l'heure, pour la navette, c'était 3 à 5 km. Là, c'est 200 km par seconde, ça va beaucoup plus vite. Consommation extrêmement faible, parce qu'on n'éjecte pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de masse. Mais c'est un moteur qui peut durer longtemps, longtemps, longtemps. Et donc, dans la durée, finalement, il ira beaucoup plus vite qu'un moteur classique, conventionnel.
Et l'accélération est constante.
L'accélération constante, très très faible, mais elle peut durer des années. La consommation est très lente. Donc, on cherche aussi à faire progresser ce moteur ionique-là. Donc, on en a de plus en plus performants au fur et à mesure que la technologie progresse. Et donc, toutes les nouvelles sondes sont équipées d'un moteur ionique. Ce moteur à lui seul ne suffit pas à éjecter la sonde. On ne peut pas démarrer du sol et s'extraire de la gravitation terrestre avec ce moteur-là. Il faut quand même la fusée conventionnelle avec ses gros boosters. Ensuite, là, on a notre petite sonde qui prend le relais avec son petit moteur ionique.
On va poursuivre sur ce sujet, voir les suites qu'on peut donner à ce type de moteur, les évolutions dans quelques instants. Donc, nous revenons pour nos auditeurs sur l'évolution possible à donner à un moteur qui est, pour notre époque révolutionnaire, c'est le moteur ionique.
Voilà, le moteur ionique, donc on en parlait, on éjecte des petites particules très très rapidement. Mais on finit par consommer tout ce qu'on avait amené comme matériaux, et donc il faudrait trouver un autre système. Un autre moyen de propulsion, c'est la voile solaire. Et là, on se sert des photons, la lumière du soleil qui vient propulser la voile. Alors là, évidemment, des photons, il y en a tant qu'on en veut, tant qu'on est dans, on va dire, l'environnement proche d'une étoile. Et avec une voile solaire, on atteindrait la plus proche étoile en 250 ans. Ce qui est encore un peu trop pour une vie humaine, mais c'est quand même nettement inférieur aux 50 000 ans d'un petit moteur ionique.
C'est intéressant le sujet que vous évoquez, parce que on en parle au même moment où vient de sortir le dernier roman de Bernard Werber, Le Papillon de l'espace, où justement il raconte, on va pas citer le livre, mais il raconte l'histoire d'un vaisseau spatial terrien d'une longueur de 32 km avec des voiles qui sont de dimension, des voiles solaires de dimension d'un continent ou d'un pays.
Ah oui, il faut au moins
pour pouvoir atteindre une nouvelle planète en 1000 ans. Donc j'encourage d'ailleurs nos auditeurs à se procurer ce livre, mais c'est pas simplement du roman de science-fiction.
Non, du tout.
Concrètement,
non.
Ça peut se réaliser.
Ça peut se réaliser, mais il faut vraiment des voiles très 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 grandes pour capter le maximum de photons. Et l'accélération est importante quand on est proche d'une étoile, et elle diminue au fur et à mesure qu'on s'en éloigne, puisque la densité de photons diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'étoile. Donc, c'est pas une poussée qui va être constante, ça va diminuer, ça va remonter au fur et à mesure qu'on approche d'une nouvelle étoile, mais ça peut marcher. Mais c'est quand même une poussée très très faible, et il faut quand même des années et des années, et puis des milliers d'années pour atteindre des étoiles proches.
C'est-à-dire que ça ne peut pas se cumuler, ce n'est pas comme le moteur ionique, c'est-à-dire les photons qui arrivent sur la voile disparaissent après.
Oui, en fait, c'est la pression photonique, la vitesse des photons qui vont faire des impacts sur la voile, ça va créer une poussée. Alors, cette poussée va créer une accélération, mais plus on est loin de l'étoile, moins il y a de photons qui vont venir pousser, et plus l'accélération va ralentir. Il y aura toujours une petite accélération, mais elle sera de plus en plus faible. C'est comme si on accélérait de moins en moins vite. Et donc il arrive un moment où on accélère pratiquement plus si on est trop loin d'une étoile. Mais on perd pas de vitesse. On continuerait à la même vitesse, mais on accélère beaucoup moins. Alors il faut trouver d'autres moyens, et là on rentre non pas dans la science-fiction, mais pas loin. Mais ce sont des choses qui n'ont pas encore été vraiment testées. Alors, il y a la propulsion matière-antimatière. Donc, on va faire réagir des particules, une de matière et sa conjointe, celle de l'antimatière. Et donc, dans le contact entre les deux, il y a annihilation totale de la matière qui se transforme en énergie. Alors là, évidemment, là, on a de la puissance. Et avec cette forme de propulsion-là, on atteindrait Alpha du Centaure en 57 ans seulement.
Donc déjà, à l'échelle d'une vie humaine, c'est plus intéressant.
C'est déjà plus abordable. Il faut déjà avoir quand même envie de passer 57 ans dans un vaisseau spatial. Mais là, en une vie humaine, ça peut se faire.
Encore faut-il trouver l'antimatière ?
Encore faut-il trouver l'antimatière. Donc là, il y a d'autres problèmes. Il faut la fabriquer, il faut la stocker. Donc il y a d'autres problèmes après qui peuvent surgir. Autre façon de faire, c'est la fusion nucléaire en ramassant l'hydrogène sur le trajet. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus s'alourdir avec de l'hydrogène qu'on aurait déjà fabriqué. On le ramasse au fur et à mesure et on fait de la fusion nucléaire. Donc là, c'est ce qui se passe au centre du Soleil actuellement. On fait fusionner de l'hydrogène pour le transformer en hélium. Là, ça va beaucoup plus vite. On atteint Alpha du Centaure en 28 ans seulement. Donc nettement plus efficace.
Toujours trop long pour aller au travail et rentrer chez soi.
Voilà, toujours trop long. Et alors, le fin du fin, ce serait de la matière négative. C'est-à-dire c'est de la matière qui, au lieu d'attirer, comme la gravitation le fait, c'est de la matière qui repousserait. Donc là, c'est vraiment de la spéculation. On imagine qu'il pourrait peut-être y exister de la matière négative qui repousserait les éléments au lieu de les attirer entre eux. Et là, on atteindrait Alpha du Centaure en 12 ans.
En 12 ans, Alpha du Centaure en 12 ans.
En 12 ans, exactement.
Donc, là, ça devient raisonnable. On peut aller y passer des vacances.
Là, ça devient tout à fait raisonnable. Évidemment, c'est un mode de propulsion qui n'existe absolument pas. C'est quelque chose d'imaginé. Mais ça peut commencer à devenir intéressant. Ça ne suffira toutefois pas pour aller au-delà.
Après une prochaine pause musicale, j'aimerais qu'on revienne juste un instant avant de poursuivre cette émission rapidement sur la différence entre antimatière et matière négative. Oui, il y a quelques instants, Lionel, vous parliez de l'antimatière et de la matière négative. Alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail et dans une explication trop scientifique ou trop technique, mais moi j'étais persuadé que c'était la même chose.
Non, ce sont deux concepts différents en fait. Matière et antimatière sont des particules symétriques. La matière, par exemple, l'électron, c'est une petite particule qui gravite autour du noyau des atomes et qui est de charge négative. L'antiparticule qui lui correspond à l'électron s'appelle le positon ou positron. Donc c'est pareil, ça graviterait autour d'un antiatome, on va dire, de charge négative. Et ce positon a pour charge une charge positive. Donc c'est le pendant de l'électron, c'est juste la charge qui change. Mais ce sont des grains de matière qui attirent. Donc ça fabrique quand même de la matière avec une gravitation telle qu'on la connaît. Alors que la matière négative, ce serait quelque chose de tout à fait nouveau, mais qui repousserait les éléments au lieu de les attirer les uns aux autres.
D'accord.
Donc ce sont deux choses différentes.
Ce sont deux choses bien différentes.
Voilà. Donc nous en étions donc sur Alpha du Centaure en arrivant en 12 ans. Alors, petite chose qui va commencer à entrer en jeu, c'est ce qu'Einstein a montré avec la relativité restreinte, c'est la dilatation du temps. Pour quelqu'un qui voyage, plus il se rapproche d'une vitesse proche de celle de la lumière, et plus pour lui son temps ralentit. Alors en fait, lui ne s'en rend pas compte, sa montre tourne toujours à la même vitesse. Tout ce qu'il a l'impression, lui, c'est de parcourir des distances très courtes. Donc il a l'impression d'aller plus vite. Son temps, lui, s'écoule normalement. Pour lui, ce qu'il pense et ce qui se passe, c'est que c'est le temps de ses observateurs qui sont restés à Terre, par exemple, va beaucoup plus vite. Alors, ce ne sont pas que des idées en l'air, ça. On l'observe tous les jours, par exemple, dans les accélérateurs de particules. Qu'est-ce qu'on fait dans un accélérateur de particules ? On envoie à très grande vitesse des projectiles, donc des atomes, sur des cibles. Et dans l'explosion, on va analyser les débris de l'impact et on va trouver de nouvelles particules. Ce sont des particules qui, en général, sont tellement brèves, ont une durée de vie tellement brève qu'on n'aurait jamais le temps de faire quoi que ce soit comme mesure sur elles. Mais aux vitesses à laquelle on les propulse, elles sont soumises aux lois de la relativité restreinte et leur temps se dilate. Et pour un observateur qui regarde l'expérience, on a l'impression qu'elles vivent beaucoup plus longtemps que prévu. Leur temps s'est ralenti. Donc ce qui serait que un millionième, un milliardième de seconde, ça va peut-être durer quelques secondes et on a largement le temps de faire des mesures. Donc c'est quelque chose que l'on expérimente tous les jours, cette dilatation du temps. Et qui arrive, je le répète, plus on s'approche de la vitesse de la lumière. Alors quels sont à peu près les taux ? Si on va à 87% de la lumière, on a son temps qui est ralenti deux fois. Donc le temps s'écoule deux fois plus lentement. Pour un objet qui atteint 95% de la vitesse de la lumière, c'est un peu plus de trois fois plus lent. 98% de la vitesse de la lumière, c'est 5 fois plus lent. Et si on va à 99% de la vitesse de la lumière, le temps s'ralentit de 7 fois. Donc le temps s'écoule 7 fois plus lentement.
Alors, un exemple.
Si avec on arrivait à fabriquer notre fusée de matière négative, 12 ans pour aller sur Alpha du Centaure, mais c'est 12 ans pour celui qui voyage. Sur Terre, il s'est écoulé 17 ans. Il y a déjà une différence de 5 ans.
Ça reste quand même dans le domaine du raisonnable.
Oui, tout à fait. Parce qu'on n'a pas atteint non plus des vitesses extraordinairement rapides, parce que Alpha du Centaure, c'est à côté. C'est à 4 années-lumière. Donc la différence n'est pas extraordinaire.
Je veux dire par là qu'un équipage spatial peut très bien partir pour une mission. Il ne le fera qu'une fois dans sa vie. Il revient, il repart. Bon, il y a 10 ans de décalage.
Oui, s'il faisait l'aller-retour.
Il y a 10 ans de décalage, c'est pas encore insurmontable. Sans doute des problèmes psychologiques énormes, mais
probablement, puisque les gens qu'ils ont connus sur Terre ont vieilli de 10 ans de plus que ceux qui ont voyagé.
Bon, pour limiter les problèmes, il faudrait qu'ils partent très jeunes.
Oui, tout à fait. Mais si on va beaucoup plus loin, là, l'écart va s'accentuer. Alors, si on va beaucoup plus loin, on va pouvoir atteindre des vitesses intéressantes. Et on imagine qu'on ait la technologie pour aller aussi vite que l'on veut. On va être limité par quelque chose, c'est par l'accélération. C'est-à-dire que pour quelque chose, pour un vaisseau qui, on va dire qu'il y aurait des conditions supportables, il faudrait pas qu'il accélère de trop, parce que le corps humain ne pourrait supporter, on va dire, que la pesanteur terrestre. On est habitué à 1G, c'est la pesanteur terrestre. On pourrait accélérer beaucoup plus. Les chasseurs, les pilotes de chasseurs, ils peuvent supporter 5, 6G. 6G, c'est déjà limite. Au-delà de 20G, les vaisseaux capillaires ne résistent plus. Donc, on va limiter notre voyage avec une accélération à 1G. Et on va voir, justement, en fonction de notre destination, quel est l'écart entre ce que ressent le pilote et ce que vous calcule et ce que sentent réellement ceux qui ne se sont pas déplacés.
Eh bien, ça devient passionnant. Une nouvelle pause musicale et puis on retrouve le sujet de cette émission, les voyages intergalactiques.
Donc, si on prend différentes cibles, on va dire, avec un vaisseau qui est capable d'accélérer autant qu'il veut, mais pas plus de 1G, c'est-à-dire l'attraction terrestre. Pour aller sur Alpha du Centaure, cette fois-ci, là, on va aller beaucoup plus vite. Donc, tout à l'heure, c'était matière négative. Là, on va dire, on a la technologie pour accélérer comme on veut. Alpha du Centaure, on mettrait 5 ans et demi à peu près pour les observateurs terrestres. Pour ceux du vaisseau, il n'aurait passé que 3 ans et demi pour faire le voyage. Et là, je dis, c'est un aller simple. J'ai calculé avec accélération, décélération. C'est-à-dire qu'on accélère pendant la moitié du voyage et on ralentit pendant l'autre moitié pour pouvoir s'arrêter. On ne fait pas que passer. On s'arrête sur Alpha du Centaure. Et on a atteint 94,5% de la vitesse de la lumière. Si on le veut aller un petit peu plus loin, par exemple, sur une étoile qui serait à 600 années-lumière de distance. C'est pas énorme, c'est la banlieue proche du Soleil. Pour ceux qui ont observé le vaisseau se déplacer, il s'est écoulé 601 ans. Alors le vaisseau, maintenant, il va pratiquement à la vitesse de la lumière, à sa vitesse maximum, et donc à chaque année, il parcourt une année-lumière. Donc 600 années-lumière, il faut 601 ans. Mais dans le vaisseau, il s'est écoulé 12 ans et demi. Donc là, évidemment, l'écart est nettement plus important.
Voilà, c'est un voyage sans retour.
Si on pensait faire un aller-retour, donc 25 ans, encore ça va pour l'aller-retour pour les passagers du vaisseau, mais sur Terre, il se serait écoulé 1200 ans.
Voilà, là c'est la version du voyage dans le temps, mais dans le futur.
Tout à fait. Alors, c'est vraiment dans le futur, là. Si on va un petit peu plus loin, alors on va dire qu'on va explorer au-delà du centre de la galaxie, mais on reste dans notre galaxie, on va à 40 000 années-lumière. Il faut 40 000 ans, d'après ceux qui nous regardent partir, il faut que 20 ans pour y aller. Donc, plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus le temps des voyageurs ralentit et on voit bien qu'ils ne gagnent pas grand-chose, en fait. Pour aller sur la plus proche galaxie, qui est quand même à 2 millions d'années-lumière, donc 2 millions d'années s'écoulent sur Terre, 28 ans seulement dans le vaisseau. Si on veut aller encore plus loin, allez, 10 millions d'années-lumière. Donc là, il y a vraiment plein de galaxies qui sont accessibles à cette distance-là. 10 millions d'années sur Terre se sont écoulées, 31 ans dans le vaisseau. Et alors après, bon, j'ai fait deux petits calculs, je vous m'amuser, 1 milliard d'années-lumière. Donc là, c'est vraiment, on arrive assez loin. Dans le vaisseau, il s'est écoulé 40 ans. Et si on va au plus loin qu'on peut aller actuellement, c'est 13 milliards d'années-lumière, au fin fond de l'univers connu. Sur Terre, il s'écoulerait 13 milliards d'années. Dans le vaisseau, il ne s'écoule que 45 ans. Le temps s'arrête pratiquement pour faire toutes ces distances-là.
C'est extraordinaire. Extraordinaire, on a du mal à réaliser. Ce qui veut dire que tout ce que nous proposent les feuilletons style Star Trek ou les films Star Wars...
Voilà, là il y a un problème.
Il y a un problème.
Si réellement ils veulent franchir des distances en millions d'années-lumière, mais s'ils font un aller-retour d'une planète vers une autre, il s'est écoulé des millions d'années sur la planète qu'ils viennent de quitter. Donc lorsqu'ils reviennent, ce n'est plus les mêmes générations qu'ils retrouvent. Donc là, c'est vrai que c'est de la science-fiction.
Ce qui veut dire que quand on aura trouvé cette technologie, si jamais on la trouve, on l'utilisera pour des voyages, ce qu'on disait tout à l'heure, sans retour, pour aller coloniser d'autres planètes sans, en perdant le contact avec la planète
mère. Oui, de toute façon, on partirait avec, dans l'idée, on ne retrouverait plus ceux qu'on a quittés. De toute façon, même si on fait un aller-retour pour rapporter des éléments, pour rapporter des réponses, sur Terre, il s'est écoulé des millions d'années. Donc, de toute façon, tout aurait évolué d'une manière inimaginable. Donc, c'est plutôt des voyages, des allées simples. Mais à tout ça, va s'ajouter quelques problèmes. Parce que là, on a dit, on va franchir des distances en millions d'années, et donc il nous faut pas grand-chose, hein, on va dire de l'ordre d'une trentaine d'années, on va où on veut dans l'univers. Mais il faut tenir compte d'autre chose, c'est que l'univers n'est pas statique. Et en 1929, par exemple, Edwin Hubble, donc un Américain, a montré que les galaxies nous fuyaient toutes les unes les autres. Et elles nous fuient d'autant plus vite qu'elles sont plus éloignées. Notre univers est en expansion, c'est ça qu'il a montré.
C'est une théorie. Est-ce que cette théorie est vraiment démontrée?
C'est quelque chose que l'on mesure. D'accord. L'expansion de l'univers, c'est quelque chose que l'on mesure tous les jours.
Parce qu'il y a des contradicteurs sur cette théorie. Une parenthèse, on ne va pas rentrer dans le débat, mais...
Oui, bien sûr. Mais c'est quelque chose que l'on mesure. L'univers est en expansion. On peut mesurer l'expansion, hein. Par exemple, si on prend un cube de 1 km d'arête, donc un morceau d'espace d'un kilomètre cube, ce morceau d'espace d'un kilomètre cube, où qu'il soit placé dans l'univers actuel, il grandit de 66 nanomètres, donc 66 milliardièmes de mètres, tous les ans. Donc ça grandit. Et alors ça, c'est vraiment tout petit, hein, c'est plus petit qu'une bactérie, hein. Donc 1 km, il grandit de 66 nanomètres tous les ans, quel que soit l'endroit où il est placé. Et donc ça, c'est l'expansion de l'univers. Ça grandit. Donc sans rien faire, sans aucun mouvement relatif, on a tous les objets de l'univers qui s'éloignent les uns des autres.
Très bien, alors on a vu le côté facile. Si on avait la technologie, voilà jusqu'où on pourrait aller, sans problème, sans obstacle. Manque de chance, il y a des obstacles, il y aura des gros problèmes, dont l'expansion de l'univers qu'on vient d'aborder.
On va voir dans comment ça va jouer.
Voilà, on va revenir sur cette question. Voilà, alors je suis un peu déçu parce que toutes nos illusions d'un futur voyage intergalactique s'évanouissent parce qu'en fait, il y a des obstacles quasiment insurmontables, quelle que soit la technologie qu'on emploie.
Oui, là, on a dit que on prenait la technologie adéquate pour pouvoir atteindre les vitesses que l'on voulait, donc on atteignait pratiquement la vitesse de la lumière. Le problème, c'est qu'à cause de l'expansion de l'univers, notre destination s'éloigne de nous. On imagine une fourmi sur un élastique. La fourmi parcourt l'élastique, mais si on tire l'élastique trop vite, elle atteindra jamais le bout, puisqu'elle a de toute façon plus de distance à parcourir que ce qu'elle a fait depuis le début. Donc c'est exactement, on en est là. On peut aller aussi vite que l'on veut, mais de toute façon, l'univers est en expansion, et donc toutes nos destinations s'éloignent de nous encore plus vite. Donc logiquement, on peut pas les atteindre. Alors je dis ça, c'est quand on veut vraiment aller très loin, si on veut aller sur des galaxies relativement éloignées, celles-là, de toute façon, on ne peut pas les atteindre. Ce que j'ai dit tout à l'heure, nos 45 ans pour aller à 13 milliards d'années-lumière, ce qui actuellement est la frontière de l'univers. Mais dans 45 ans, si on tient compte de l'expansion de l'univers, mais on est vraiment très très proche de la Terre. On n'a rien atteint du tout. Parce que l'univers, lui, il aura grandi aussi. Et donc ces 45 années qui auront duré 13 milliards d'années sur Terre, pendant ces 13 milliards d'années-là, mais l'univers, il sera immensément plus grand et on n'aura rien atteint du tout. Donc on met un bémol sur toutes les destinations que l'on atteignait rapidement de l'ordre d'une trentaine, quarantaine d'années. En fait, au bout de 30 ou 40 ans, donc cette durée là, on n'a rien atteint du tout. Donc on est coincé dans l'environnement proche. Alors, quel environnement proche? Là, il y a un deuxième paramètre qui va intervenir, c'est le problème de l'énergie sombre. Parce qu'actuellement, l'expansion, il y a un petit problème, c'est qu'il semblerait qu'elle soit en train d'accélérer. Donc ces derniers temps, c'est pas depuis l'année dernière, hein, c'est quelques millions d'années, l'expansion de l'univers semble accélérer. On attribue à cette accélération l'influence d'une énergie, l'énergie sombre, puisqu'on ne sait pas du tout ce que c'est, donc en général c'est toujours des choses un petit peu mystiques, c'est sombre, voilà. On ne sait pas ce que c'est, on cherche. Et l'énergie sombre serait à l'origine de l'accélération de l'expansion. On y met dans les équations de la relativité un petit paramètre, et on lui donne différentes valeurs pour voir ce qui se passe. Et le paramètre, en fonction des mesures que l'on fait, on essaye de l'affiner. Et donc, si ce paramètre-là est inférieur à -1 actuellement, donc c'est une valeur donnée par les physiciens, les astrophysiciens, L'énergie sombre a des causes dramatiques sur l'expansion de l'univers et ça s'accélère franchement très 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 vite. Et donc, non seulement l'univers va s'agrandir, mais ça va pratiquement éclater, mais cette énergie sombre va vaincre aussi la gravitation. C'est-à-dire que ça va tellement enfler que même la Terre ne pourra plus rester en orbite autour du Soleil. Parce que ça, c'est comme si on tirait l'élastique encore plus grand. On imagine, il y a le Soleil à un bout de l'élastique, la Terre à un certain endroit. L'énergie sombre va étirer l'élastique tellement vite que il y aura une telle distance entre la Terre et le Soleil qu'il n'y aura même plus d'attraction gravitationnelle entre les deux. Donc l'énergie sombre peut vaincre l'attraction gravitationnelle entre les objets massifs.
C'est pas pour demain, rassurez-nous.
C'est pas pour demain. Mais cette énergie sombre, avec cette valeur-là inférieure à moins 1, elle va vaincre même l'énergie électrostatique qui relie les molécules entre elles. Et elle va même vaincre l'énergie donc des noyaux qui maintient les atomes. Et donc tout va s'étendre, tout va se dilater, et notre vaisseau va subir exactement la même chose. Donc le vaisseau finira par éclater, par s'étendre et par éclater au beau milieu de son voyage. Donc il y a un problème avec l'énergie sombre. Si maintenant, comme on le pense, le petit paramètre il vaut à peu près moins 1, mais là on l'imagine, donc l'énergie sombre va continuer à accélérer l'expansion de l'univers, mais de manière moins rapide. Mais là, le problème, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, les seuls objectifs que l'on peut atteindre dans une durée de vie relativement courte sont des objectifs qui sont actuellement très proches, parce qu'ils vont s'éloigner de plus en plus vite et on ne pourra pas les rattraper. Si on est trop ambitieux dans la destination, c'est une destination que l'on ne pourra jamais rattraper. Donc même avec toute la technologie que l'on pourrait imaginer, le voyage est inutile, puisque de toute façon, on n'arrivera jamais à destination.
C'est important ce que vous nous dites, parce que bon, ça c'est dans le cas où on décide de quitter la Terre, mais ça renvoie à d'autres questions. Ça veut dire que si on vient nous visiter, c'est impossible aussi. En imaginant qu'il y a une forme de vie qui
existe
ailleurs.
Voilà, le problème est réciproque, c'est pas juste nous qui ne pouvons pas nous déplacer, c'est pour tout le monde la même chose. Donc c'est vrai que des civilisations qui seraient bien plus avancées que nous se heurteraient au même problème, elles ne pourraient pas venir sur notre galaxie, à condition d'habiter sur une galaxie très éloignée. Dans notre propre galaxie, on va dire on a moins ce problème-là, et on peut, si on a la technologie, se déplacer d'une étoile à une autre. Il y a juste un problème là de dilatation du temps, où les gens que l'on quitte sur Terre vont vieillir quand même beaucoup plus vite que ceux qui voyagent dans le vaisseau. Là, on va dire les voyages sont quand même possibles. Mais dès que l'on veut franchir les espaces entre les galaxies, les espaces intergalactiques, là il faut vraiment réfléchir, parce que c'est peut-être des cibles qu'on n'atteindra jamais. Et en retour, les habitants de ces galaxies-là ne pourraient pas nous atteindre non plus.
Ce qui veut dire qu'on s'ignorera jamais.
C'est probable.
C'est probable. Bien, c'est très amusant et c'est très gai ça, effectivement. Sommes-nous seuls, espérons qu'il y a des voisins dans l'univers que nous pourrons visiter, qui viendront nous visiter.
Eh ben oui.
On a fait le tour de la question,
Lionel. On a à peu près tout dit pour cette semaine.
Effectivement. Merci à tous d'être à l'écoute des programmes de RVE. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.